Merci, Bernard. Alors, on a préparé les questions. Alors, je vais tenter de poser quelques questions, mais surtout, vous avez vu, ce sont deux textes extrêmement riches. Et, malgré qu'ils ont chacun pris un chemin différent, ce que j'étais frappé, c'est qu'à la fin, vous tombez sur cette question de l'interprétation des réels. Donc, alors, Anita, tu as pris, on a vu, tu as pris parler de la croyance, de la certitude, et pour parler des deux, donc, les nouer, tenter de parler de la question de l'amour. Et pour cela, tu nous as montré très bien à partir des deux exemples, donc Stendhal et Breton, et Stendhal, ses positions où justement. Dans la névrose, il y a l'homme qui y croit à la femme et qui dit « crois ce que dit la femme ». Et donc par rapport à ces dits de la femme, je trouve un écho par rapport à ce que justement Bernard nous a dit, de la question, comme Bernard il a pris le pari nouer, nous interpréter tout ce que nous avons parlé avant de la question du temps logique. Et pour moi, c'était très éclairant parce que je n'avais pas vu cette question du temps logique à partir du dire, c'est dire de la fin. Et ça devient extrêmement clair pour moi maintenant, effectivement. Et donc, la question que je vous pose à chacun, c'est parce que Anita prend plutôt la question du côté du dit de la femme, comme on dit qui est du côté de l'amour, il s'est dit, donc tu dis que c'est l'homme qui croit à ces dits. Et du coup, c'est un dit qu'il faut y croire parce que je pense que là, il y a un autre point de rencontre entre vous deux parce que tu prends, Anita, plutôt la question de, il n'y a pas de rapport sexuel, donc il faut y croire parce qu'on n'a pas, le choix en quelque sorte. Il faut y croire à cet amour, donc tu fais donc les deux propositions, donc l'amour du côté de la névrose et l'amour du côté de la psychose. Et là, tu développes quelque chose dont je voudrais peut-être que tu dises un peu plus, parce que donc, tu fais la différence entre la névrose de y croire aux symptômes et dans la psychose, le croire comme certitude, pas la croire, mais le croire, et à partir de ces le croire, il y a tout ce qui était développé autour de justement les croire et tout ce que Breton a fait autour de cette certitude dont les psychotiques ne peuvent pas s'en sortir. Et à la fin, vous deux, vous arrivez à cette question de justement des. Du côté de la psychanalyse, donc, Anita, tu as mis l'amour du transfert et tu as dit quelque chose que je voudrais que tu développes un peu plus, c'est ces croyances trouées. Tu dis que c'est savoir du côté de la psychanalyse, c'est une croyance trouée, c'est-à-dire qu'il faut maintenir cet écart. Il me semble que c'est un peu un lien avec ce que Bernard vient de dire par rapport à à cet idéal de la fin, c'est-à-dire quelque chose où il faut produire quelque chose d'interdit, justement, tu reprends la question d'outil et tu finis par rapport entre ces dits et dire de la fin. Donc, je trouve que c'est en tout cas, moi, ça m'étonne des pistes de travail par rapport à ces croyances trouées, donc quelque chose dans la psychanalyse, c'est pas une croyance toutes, mais qui restent trouées, justement parce que, et c'est là où Bernard nous rappelait ce que Claire Montgobert nous avait dit, la différence entre conviction dans la psychanalyse n'est pas du côté de la croyance, mais la certitude, justement. Et je pense que ça, c'est très important, ce que tu as aussi rappelé, que dans la psychanalyse, il y a une différence fondamentale par rapport à cette conviction. Et que justement ces certitudes, et c'est là où Bernard met ces certitudes du côté de l'acte de l'analyste, il me semble que c'est ça. C'est C'est-à-dire que ce n'est pas du côté de l'analysant,
mais c'est Lacan hein, qui le dit. Hein. Mm. C'est tiré de mépris du sujet, je voulais savoir. Mm.
Voilà, sinon, bon, oui, Bernard, effectivement, moi j'étais frappé parce que bon, tu l'as dit de façon très subtile, mais ton désaccord par rapport à la, au parcours qu'on avait fait un peu autour de ta logique, mais justement, tu nous as montré comment c'est la question du dire et les liens entre le temps et les temps et les dires, que moi, pour moi, ce n'était pas si évident que ça. Et je retiens cette thèse, en tout cas, qui te dit que les dires qui s'énoncent comme certitude fait nœud. Oui. C'est à partir de là que, c'est, une fois que c'est noué, on ne peut plus le dénouer. Donc après tout l'affaire, mm-hmm. Et là, il me semble que quand tu vas jouer avec ça, il y a la question de la demande, c'est-à-dire que quelqu'un qui est convaincu, qui ne demande pas l'analyse, c'est parce que quelque chose de ces nuages s'est dénoué.
C'est ça.
Et donc, et du coup, il fait une demande pour, justement, comme tu nous as montré, peut-être les nouer autrement. Mais, de toute façon, et c'est là, il me semble, ces rencontres, les deux exposés, c'est qu'il y a quelque chose des structures où, de toute façon, il faut y croire. Ou croire à quelque chose, et que ça, on ne peut pas s'en sortir. C'est là où tu dis que... Même si on est dans une analyse, il y a ces questions de la croyance par rester entière. Voilà, je m'arrête là pour qu'on puisse après échanger et peut-être ou rajouter des choses.
Oui, donc c'est bien, Armando, puisque tu fais le rapport entre les deux exposés avec cette question des nœuds et ce que j'ai articulé, qui n'est pas des nœuds, mais c'est vrai qu'il y a un rapport. Et c'est vrai que j'ai entendu parler de votre groupe de travail sur les nœuds, et je vois que ce qui en sort est quelque chose de très élaboré, et que vous allez sans doute poursuivre bientôt en juillet en Italie, mais vraiment je vous en félicite. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le second point, alors, en effet, le symptôme, le fait de croire au symptôme, le fait de la croire la femme pour le psychotique. Alors c'est vrai, tu dis, c'est vrai qu'il ne s'en sort pas, il ne s'en sort pas à l'aide d'un tiers qui fasse coupure dans cette relation avec le double, dans cette relation entre deux. Mais c'est vrai que Breton, il s'en est bien sorti, disons, avec son art surréaliste. Hein. Ça l'a beaucoup soutenu et ça a dû faire son support, justement. Lui qui ne pouvait pas inscrire son fantasme dans le cadre de la fenêtre, ça lui a évité de traverser la fenêtre en pouvant mettre cette phrase sur la fenêtre et cette hallucination de l'homme tronçonné à mi-hauteur. Hein. Donc ça rejoint un peu ce que Lacan peut dire dans le séminaire d'angoisse de ces dessins de Isabella, des schizophrènes, qui sont des structures d'arbre avec un œil et qu'il réfère justement à la scène de l'homme loup et dans le sens où justement, il n'y a pas le cadre de la fenêtre qui porte l'angoisse dans la psychose. Et donc, dans les cures de psychotique, on peut voir aussi comment ils peuvent suppléer et à cette absence de cadre de fenêtre en faisant un dans la cure, en le fabriquant dans leur élaboration, et c'est ce qui leur permet de s'en sortir. La question de la fin de la cure, peut-être que Bernard veut dire quelque chose déjà, parce que je crois que j'ai déjà été assez longue.
Et non, après... je réfléchissais en t'écoutant au fait que. À deux choses. D'abord, j'ai lu ça dans l'avion en arrivant. Lacan s'étonne et il demande à Jacques Aubert de préciser ça. il s'étonne de savoir si Joyce croyait toujours. Et Jacques Aubert lui confirme. Il dit oui. En fait, il croit. Il a suivi l'éducation des pères de l'Église, etc. Et il y croit. Et donc, c'est déjà assez intéressant de voir que dans la psychose d'un type comme Joyce, il y a toujours cette croyance. Donc, et que Lacan lui dit, mais ça le tient vraiment. Ensuite, je pense que la solution, je ne sais pas si c'est pour Breton, mais en tout cas chez Joyce, c'est évident, la solution du symptôme ne pousse pas Joyce à croire au symptôme. Il ne croit pas que ça veut dire quelque chose. Il est même persuadé que ça ne veut rien dire, et il est très en colère quand on veut rapporter ça à une signification. Il s'est donné un mal de chien pour que justement son symptôme, ça ne veuille rien dire, mais lequel, ça fait nœud.
Lequel, Bernard?
Finnegan's Wake, par exemple. Son écriture. Hein, il tenait beaucoup à ce que ça ne puisse pas donner une signification. Il s'est donné beaucoup de mal à ça. Et beaucoup d'universitaires se sont engouffrés là-dedans en pensant tout ce qu'ils allaient trouver ce que ça voulait dire. Moi, j'ai lu un bouquin, une référence que Lacan donne, je crois que c'est Atkinson, The Book at the Wake. C'est-à-dire que dans ce livre, il y a 400 bouquins qui sont soi-disant des références de Finnegan's Wake. Des trucs vraiment tripotés, cherchés, etc. Mais lui, il ne voulait pas ça. Donc je pense que lui, il fait son symptôme avec un quatrième rond que je n'ai pas apporté là, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais il y a une autre façon de faire le nœud. Quand les trois sont pas noués, c'est de prendre un quatrième qui fait le nœud. Or, si ce quatrième fait le nœud, il n'a plus besoin de certitude. Il n'a plus besoin de ses croyances et de ses convictions. Ça tient. C'est ça qui me venait en t'écoutant. Hein. Je ne sais pas si...
Mais ce quatrième qui fait le nœud, oui. Et qui va un temps s'appeler ego protecteur,
oui,
c'est pas Finnegan's Wake. C'est...
Correcteur.
C'est quand même poser qu'il est l'artiste, c'est-à-dire la certitude de son exception.
Oui, mais l'artiste, en tant qu'il est inimitable et qu'il a fait un tournant dans la littérature, et c'est Finnegan's Wake qui fait ça.
C'est l'ultime création, mais c'est posé bien avant Finnegan's Wake.
D'accord. Mais c'est posé, mais...
C'est posé par l'acte d'écriture même.
Oui, mais ce n'est pas l'écriture de Monsieur Tout-le-Monde.
Non. Ben, on est bien d'accord.
C'est ça. Et cette écriture, elle a un côté qu'on trouve même dans Ulysse.
Oui.
Qui est une écriture qui ressemblerait beaucoup plus à l'écriture d'une cantate de Bach. J'ai lu des trucs là-dessus, il y a des symétries, il y a des choses qui montent, qui descendent, qui remontent, qui descendent. Il y a une côté structuration du récit qui n'est pas du côté de « je crois que ça veut dire quelque chose ».
Non, mais c'est simplement, je ne pense pas qu'on puisse faire de Finnegan's Wake le symptôme de Joyce, c'est tout, c'est simplement ça. Là.
Non, mais c'est son mode d'écriture quand même culmine dans ce point-là, et c'est ce qui lui donne un écho particulier.
Non, moi j'avais si tu veux, l'idée que, parce que tout cela est parti de l'expression de Lacan, croire à son symptôme. Mmh. Le fait que Joyce n'ait pas voulu qu'on donne une signification à Finnegan's Wake ne veut pas dire pour autant, même à accepter que Finnegan's Wake soit son symptôme, qu'il n'y croyait pas. Alors, qu'il n'ait pas voulu qu'on donne de la signification à Finnegan's Wake, c'est une chose. Ça ne veut pas dire pour autant que lui, il ne croyait pas au travail qu'il faisait.
Ah, mais non, je pense qu'il y croyait, bien sûr.
Supposer que ce soit ça le symptôme.
Oui, mais moi je prenais la phrase de Lacan exactement comme il le dit. Hein, croire que ça veut dire quelque chose. Hein, quand il parle de croire à son symptôme, il dit croire que ça veut dire quelque chose. Et il rajoute, hein, on ne croit pas des gens qui ne disent pas. Hein, et ça ne sert à rien de croire ce verre, ça ne sert à rien de croire le chien. On ne croit qu'à quelqu'un qui dit quelque chose. Et croire à son symptôme, c'est croire que ça veut dire quelque chose. C'est pas pareil que, par exemple, peut-être qu'on pourrait prendre la position de Joyce par rapport à son écriture, peut-être qu'il faudrait plus la prendre du côté de la certitude. Il a la certitude que ça vaut quelque chose.
Carlos,
oui.
Justement, je voulais te demander des précisions sur ce que toi tu as dit sur cette question de la certitude, et disons avec Lacan, quoi, cette question de la certitude du côté de l'acte analytique. Parce que, disons, au fond, j'aimerais savoir certitude quant à quoi. Est-ce que c'est certitude en fait par rapport à l'existence de l'inconscient, est-ce que c'est certitude par rapport à l'interprétation, est-ce que c'est certitude par rapport à l'analyste, disons, à s'y prendre en fait pour l'analyste, ou est-ce que c'est certitude par rapport en fait au réel, justement, comme limite, parce que c'est en fonction des termes, en fait, qu'on peut, disons, en fait, resserrer la chose, en fait, hein, par rapport à la question de l'acte. Pourquoi ? Parce que en même temps, là qu'on avance aussi, disons, toute une série de formulations qui, justement, placent ces questions-là du côté de quelque chose qui est de l'ordre, en fait, justement, de l'incalculable, par exemple, pour l'interprétation, disons, d'une interrogation permanente, en fait, de l'analyste. Donc, voilà, justement, par rapport à ces deux plans-là, comment préciser cette question de la certitude du côté de la...
Oui, mais ce que tu dis, ça me va très bien, d'autant que ça souligne un paradoxe. Certitude par rapport à l'incalculable, c'est vraiment intéressant. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire, certitude, moi je l'ai pris comme ça, c'est le mot du réel qui fait le nœud. C'est pas du tout pareil que si ce qui fait le nœud, c'est le sens entre symbolique et imaginaire, le sens de l'interprétation commune. Vous avez rêvé que vous perdiez vos dents, ça veut dire que votre belle-mère va mourir.
Hein, c'est pas ça que ça veut dire.
Ça veut dire qu'elle sera sans rien. Quel exemple. Non, mais je dis ça exprès. Il y a un réel. Il y a un réel de la langue qui participe à l'inconscient dans ce sens qu'il se noue à l'imaginaire du corps et qu'il se noue aux règles symboliques. Hein. Ça, c'est la certitude de l'existence de l'inconscient. Et tu pourrais même dire de l'existence, parce que c'est un réel qui existe. Hein. C'est dans ce sens-là que je l'ai pris. Et c'est vous, enfin c'est ce séminaire qui m'a amené à ça, parce que vous êtes allé vers ça. Vous êtes allé vers ça.
Hein? Allez, une question. Oui.
Alors, moi, dans la suite de ce que Carlos a dit, pour reprendre la question de l'interprétation à partir d'une Borroméen. Moi aussi j'ai achevé là-dessus, là, c'est parce que tu as dit des choses de telle façon que vous pouvez penser la certitude de l'interprétation.
Ah non.
Hein? Donc ça, il faut vraiment dissocier les choses. L'interprétation, il y a quelque chose d'incalculable.
Mais si on l'a fait, c'est qu'on est dans une position de certitude, sinon on se tait.
Donc oui, c'est plus la certitude de la connaissance. Mais moi, je ne sais pas. Donc, à partir de ça, ma question, c'est que le modèle
du si tu y vas, tu proposes.
Ma question, elle est un petit peu plus loin. C'est le modèle que tu proposes, du dire de l'interprétation qui nous, c'est le réel comme moyen.
Oui.
Hein? Donc ça fait IRS. C'est ça que tu proposes comme modèle du nœud de l'interprétation. Or, je voudrais dire que dans ce que je suis en train de saisir, je parle sous le contrôle de Jacques aussi en particulier, mais de tout notre travail, je vois moins actuellement le nœud avec un moyen que comme un nouage des trois.
Par un quatrième.
Peut-être par un quatrième, mais pas avec le moyen.
Oui.
Voilà, c'est ça.
Alors, ça, c'est sans doute dû à la temporalité dans laquelle je suis. Hein, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup travaillé une leçon des non-dupes où Lacan donne trois façons de faire le nœud. Donc, c'est ce que j'ai décliné. Hein. Mais je ne prétends pas dire tout sur tout avec ça. Mais ça me semble intéressant. Parce que ça montre que dans l'interprétation, l'analyste a peut-être la chance de modifier quelque chose dans la façon de faire le nœud. Pas dans le nœud en lui-même, mais dans la façon de faire le nœud. Et que de passer d'une façon à une autre, ça fait entrevoir le trou central, c'est-à-dire le vide de la voix, là où les signifiants résonnent, etc., etc. Donc la seule certitude, à mon sens, que l'analyste a, c'est qu'il doit être, lui, au centre du nœud, là où les signifiants résonnent.
C'est ça, la dissolution, finalement, je parlais de la dissolution à la fin.
Discord,
c'est ça. Discord, d'ouvrir, voilà.
Marc.
Il y a les sols d'abord, et après Marc.
Oui, je voulais dire plusieurs choses et poser plusieurs petites questions. D'abord, une remarque un peu générale. J'ai trouvé qu'on a du mal avec ces trois termes, en fait. Hein, et que, parce qu'ils glissent un peu. Hein. Alors, le travail que Bernard évoquait de Claire Montgobert avait été utile parce qu'elle s'était soumise à la discipline de la définition, et donc elle avait posé des définitions et ça lui avait permis, disons, d'asseoir son raisonnement. Parce que sinon, on glisse un peu. Par exemple, je pensais à cette phrase de Freud que Bernard a citée, la ferme conviction à l'existence de l'inconscient. Une ferme conviction, je me disais, bon, on peut aussi appeler ça une certitude subjective. Hein, et dans ce cas-là, on se dit, bon, quelle est la différence entre la conviction et la certitude? La conviction, c'est ma certitude à moi, hein, j'en suis convaincu. Et puis, encore faut-il que je le démontre. Mmh. Donc là, on entre dans la définition de la certitude comme quelque chose qui est démontré. Certitude logiquement démontrée, sinon il n'y a pas de certitude. Or, dans la langue, on se sert quand même de la certitude, et là, quand on le fait, hein, pour parler d'une certitude du sujet. Mmh. On appelle certitude subjective, et je trouve qu'on ne va pas se priver de ça pour autant. Hein. Donc, difficulté à manier les termes séparément, je dirais. Hein? Parce qu'une fois qu'on établit la temporalité, effectivement, ils se définissent les uns par rapport aux autres. Hein? Une conviction, c'est plus fort qu'une croyance, par exemple. Hein? Donc, on peut, d'abord, tu l'as fait déjà au début, quand tu évoquais l'exposé de Jean-Jacques, tu avais cité croyance, certitude, conviction, et à un autre moment, tu avais rétabli un ordre, croyance, conviction, certitude, qui indique un peu ce problème, il me semble. Hein? Bon, cela étant dit, je pense que c'est une difficulté qu'on a eue pendant l'année. Je voulais donc, à propos de la croyance religieuse, hein, je me suis posé un peu une question analogue à celle de Agnès. La science radicalise la croyance religieuse, je suis. Souvent penser ça.
Hein. Oui,
ça m'apparaît. Ouais. Hein. Alors, est-ce que moi j'aurais eu tendance spontanément, mais ça ne veut rien dire, hein, il faudrait le démontrer, à situer la croyance religieuse aussi en quatrième. Je me suis demandé pourquoi Bernard la situe dans un nœud à trois,
Moi, j'aurais pensé à Noah 4, j'aurais situé la croyance religieuse, surtout dans la façon dont tu l'as présentée cliniquement.
Oui.
Mm-hmm. Avec quoi je suis pleinement d'accord. Hein, je te suis. Mais attends, ne me réponds pas encore parce que je n'ai pas fini de. Ne me réponds pas tout de suite. Donc, je l'aurais situé plutôt en quatrième, c'est-à-dire à la place où Freud met la réalité psychique, à la place où la formelle au nom du père. Voilà. Donc, question. Autre question, avant de passer une question à Anita. Le martyr, un phénomène structural, j'aurais aimé que tu expliques un peu plus ça. Que ce soit un phénomène structural, enfin, ça ne me saute pas aux yeux. Ça m'intéresserait que tu nous le démontres un petit peu. Hein? Voilà. Anita, Anita, je suis très intéressée par l'amour fou. Hein? L'amour fou de Breton. La conception de l'amour fou qu'avait Breton. Et alors, tu évoquais à un moment donné la paranoïa. Et alors là, je me suis posé différentes questions que je te pose. Donc, est-ce que tu fais de Breton un paranoïaque? Est-ce que tu fais de la conception que Breton avait de l'amour fou une conception paranoïaque? Est-ce que tu penses que l'amour fou, cliniquement, renvoie toujours à la paranoïa? Voilà, trois questions sur ce point. Et puis une petite, qu'est-ce que c'est que l'aberrance de l'extimité? L'aberrance de l'extimité. Je n'ai pas pigé ce que tu voulais dire. Voilà, merci.
Déjà pas mal.
Tu vas répondre, Anna?
Non,
je ne vois plus. D'accord. Donc, bon, c'est-à-dire que par rapport au. À des artistes comme ça, où c'est vrai que je n'ai pas de diagnostic. Cela étant, c'est quand même Lacan lui-même qui a fait différents articles qu'on connaît hein, dans la revue des surréalistes en parlant de la question de la paranoïa. C'est vrai que c'est dans ce qu'on voit de Breton. Qui dit que son art, finalement, c'est une confrontation entre deux, avec son double, en fait, hein, et que, finalement, l'art, c'est faire un crime dans une foule, tirer dans une foule, c'est vrai qu'on est complètement dans ce que Lacan... disait dans ses fameux articles dans les revues surréalistes sur la question de la paranoïa, ça c'est vrai. Hein. Et quand une partie se dresse contre l'autre, bon, comment faire avec deux motions contradictoires, c'est vrai que ça évoque ça. Mais bon, l'essentiel c'est de comprendre, de percevoir, de saisir le mécanisme de l'art, de la création, qui sort de là et qui a fait que il en a fait de l'art quoi, hein. Mais le mécanisme même de cet art tel qu'il le décrit et tel qu'il est lui-même dans son être, on voit que c'est de l'ordre de la paranoïa. Ça c'est un point. L'abéance de l'extimité, alors cette fameuse extimité qui est de finalement faire que l'extérieur soit intérieur, de névroser se débrouille pour faire que l'extérieur se conjoigne à son intérieur. Et c'est justement le principe de sa croyance. Et c'est pourquoi il fait du 2 le 1. Il lit les deux dans le 1 qui est idéal. Alors on le voit avec Breton, là par contre il ne peut pas faire du 2 le 1, puisque l'amour est fou et il est impossible, c'est-à-dire que l'amour va se casser et il dit il y a quelque chose même en deçà de l'amour qui est la vie elle-même qui est profondément cassée. Donc pour Breton, le 2 ne peut pas faire 1, il n'a pas cette croyance-là. Et il a l'incroyance, Unglauben, que le 2 est cassé. Alors, donc, comment il se débrouille? C'est que sur cette profonde béance de cette extimité, puisque finalement l'extérieur ne peut pas être inscrit dans une conjonction avec son intérieur, ben finalement, face à cette béance de cette extimité, eh bien, il met son art et il met ses phrases et ses hallucinations visuelles et il les met bout à bout et ça fait sa création poétique. Redis-moi les trois points, c'était quoi les trois points? Tu m'as dit 1, 2, 3, c'était, redis-moi parce que c'est en plus c'est court, les trois formules c'était quoi?
Est-ce que c'est la conception de Breton de l'amour fou qui définissait qu'on parlait là, ou est-ce que lui, tu le pensais par la médiacre? Oui, et non, c'est trois questions différentes, et la troisième c'était est-ce que tu mets l'amour fou en tant que tête du côté de la femme?
Oui, oui, oui. Non, ce qu'il dit de l'amour fou, on saisit qu'il y a des éléments qui constituent la paranoïa. Donc, est-ce qu'il était paranoïaque? Donc ça, j'ai répondu en disant que je ne le dirai pas, puisqu'il est un artiste. Voilà. Et puis, tout amour fou, est-ce qu'il est paranoïaque? Non, parce qu'il faudrait voir à la limite... est-ce qu'un névrosé il pourrait dire l'amour fou? Stendhal disait fou, l'amour fou de bonheur, j'arrive plus à le décrire, donc j'arrête, même si j'écris 300 pages là-dessus, j'abandonne parce que le lecteur ne va plus me croire et moi je n'y crois plus. Donc là c'est l'amour fou de Stendhal en fait, hein, c'est ça. Donc je pense que j'ai tout répondu.
Oui. Dire un mot,
oui, non, non, je vais essayer de répondre, mais très brièvement, parce que c'est un sujet très ample. J'ai commencé par rapport à la religion, est-ce que c'est le 3 ou c'est le 4. J'ai introduit mon propos avec Freud. Dans l'avenir d'une illusion, c'est 4, c'est tout à fait sûr. Hein. Simplement, quand j'ai lu cette séance de Lacan sur l'amour divin, là, il en fait le troisième. Alors, on peut penser, mais je le dis comme ça, c'est gratuit, il faudrait travailler beaucoup plus, on peut penser qu'il y a peut-être deux sortes de façons de faire le nœud avec les religions, et que faire le nœud en 3 ou faire le nœud en 4, c'est des choses bien différentes. Et pour nous, c'est très important, parce que justement, la marge de manœuvre de l'analyste, hein, où je disais par moment, il faut beaucoup de prudence par rapport à ça, il ne faut pas y aller à essayer de déplacer les choses, ça tient peut-être à ça. Et je ne peux vraiment pas en dire plus. Par rapport à ce que j'avance comme le martyr, comme une position au fond structurale, je crois que bon, deux choses me font dire ça. La première, c'est justement cette histoire de l'amour divin, parce que avec l'amour divin, on utilise le symbolique comme moyen pour accorder l'imaginaire du corps à la mort. Donc, plus on aime Dieu, plus l'imaginaire du corps peut s'accommoder de cette histoire de mort. Et en même temps, la nier. Parce que les martyrs, ils y croient tellement dur comme fer qu'on leur a dit que là-haut, il y aurait 3000 vierges, que justement, ils peuvent aborder l'imaginaire du corps avec la mort sans sourciller. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que dit Lacan dans le séminaire 11. Il dit que le sacrifice au Dieu obscur, c'est quelque chose auquel on a beaucoup, beaucoup de mal à renoncer.
Hein? Oui, c'est alors, vrai.
Eh oui.
Marc,
oui, Anita, juste une question. D'abord, une remarque. Lacan insiste beaucoup, quand il traite les surréalistes d'imbéciles, sur le fait qu'ils étaient les symptômes
oui.
de la guerre de
14.
Et donc là, le côté... massacrant de la civilisation était quand même très puissant. Alors, une question quand même, tu as parlé de l'amour de Schreber et de son Dieu,
oui.
me semble-t-il.
Oui.
Est-ce que tu pourrais, toi, je ne sais pas si c'est possible, Lacan insiste aussi beaucoup sur l'amour de Schreber pour sa femme.
Oui.
Est-ce que tu pourrais, est-ce que tu as le temps, est-ce que tu as pensé à situer les deux, la femme et Dieu, dans la mécanique schreberienne?
Ouais.
Je sais pas.
Là, je ne saurais pas, parce que j'avoue que je ne me suis pas tellement portée sur la question de Schreber et de l'amour pour sa femme. Donc, je suis vraiment fixée sur...
Oui.
C'est vrai qu'il l'a cru, son symptôme, il l'a cru Dieu, il l'a cru qu'il allait le faire une émasculation, quoi. Il l'a cru.
Hein.
Et voilà, donc il a fallu que justement il se sépare de cette... rupture pour se faire on peut pas dire une croyance parce que c'est pas celle du névrosé, mais pour se faire une suppléance de croyance et pour se dire que Dieu lui avait demandé ça, donc il pouvait le faire puisqu'il se raccordait avec la jouissance de l'autre par rapport à sa propre jouissance, hein. Mais j'avoue que pour le rapport avec sa femme, je saurais pas dire.
Peut-être
une idée sur la question.
Non, je pose la question, ça paraît complémentaire au dispositif de la relation à Dieu, c'est pas négligeable.
Oui.
Ah, Lacan note que même au moment les plus forts de son délire où il était persuadé d'être la femme de Dieu, il était sensible à l'amour de sa femme, au sens qu'il était sûr qu'elle l'aimait.
Oui,
et quand elle tombe malade, et qu'elle ne peut plus venir le voir, il déclenche un troisième épisode dont Lacan ne parle pas parce qu'il n'avait pas les documents, mais que maintenant on a et qu'on peut voir, et à ce moment-là, il tombe dans un truc qui n'est plus du tout le pouce à la femme, mais qui est un délire de négation d'organes, il barbouille sa cellule de merde et il ne bouge plus, enfin, plus rien ne tient. Et donc ça va bien dans le sens que Lacan signale que pendant le maximum de temps, il restait un petit bout de quelque chose que cette femme le prenait pour son homme.
Oui, tout à fait. Pas une relation d'amitié jamais atteinte.
Alors Marc.
Oui, oui.
Merci. Alors Bernard, d'abord... Je t'ai suivi avec intérêt, parce qu'évidemment, on essaye de penser ces histoires de nœuds. Alors, Sol, on a du mal avec trois termes différents. C'est vrai, on a du mal avec chaque terme, même si on les prend par trois.
Oui,
chaque terme nous file entre les doigts.
Pris par trois, c'est mieux.
Et Lacan dit qu'effectivement, il vaut mieux les prendre par trois, que quand on les prend un par un, on s'en sort absolument pas. Et ce que dit Lacan à partir du pire... Cette célèbre phrase qui inaugure son travail sur les nœuds, c'est « Ce à quoi je veux vous mener, c'est à vous faire saisir comment d'un nœud de sens surgit l'objet. » Et au fond, surgit l'objet, ça, je me suis posé la question, c'est la dernière de l'année, finalement, quel est l'intérêt de se prendre le chou pour trois termes qui glissent comme des savonnettes? Et quel est notre intérêt à nous, dans notre pratique, dans notre orientation? Ou bien très sérieux, très intelligent, mais quelle est la prise de ça? Et il me semble que c'est quand même effectivement la question toujours à Lacan, du réalisme de la psychanalyse, de ce qui surgit comme certitude d'un nœud de sens. Parce que l'objet qui surgit, c'est justement l'objet de certitude. Et c'est là où, semble-t-il, on n'est pas tellement éloigné, et d'ailleurs aussi avec ce que disait Agnès, que tu fasses du nœud de l'incertitude, que tu fasses de la croyance le moyen ou un des trois nœuds, ça change strictement rien. Ça change rien, ils sont noués tous les trois, et effectivement, il me semble que tu as suivi, pour ça on s'accorde, tu l'as mis d'abord en imaginaire, la croyance, tu l'as mis d'abord en symbolique. Symbolique, c'est-à-dire le
lien. Après, je l'ai mis en imaginaire.
Après, en imaginaire,
l'amour de transfert. Et puis après, je l'ai fait disparaître
et après,
avec la certitude.
En réel.
En réel, parce que logiquement, je pense qu'on ne peut pas soutenir que le réel pousse à la croyance. Sauf si on tombe dans, et ça, j'ai lu un des derniers trucs de Miller là-dessus, ce qui est étonnant, on tombe dans l'idée que la psychanalyse pourrait être une religion, et la religion de l'objet Ptita.
Oui.
Moi, je... Ça ne va pas trop.
C'est parfaitement fou, mais c'est justement, c'est la question de l'homme. Parce que la question, c'est quel est le réel, quelle est la certitude anticipée dans une croyance. Et Lacan...
La certitude anticipée dans une croyance.
Quelle est la certitude anticipée dans toute croyance ? Et effectivement, l'opération traditionnelle, c'est de chercher un sens qui fixe. Et là, on va du côté de l'indivin, du dieu tribal, dont Lacan dit dans le séminaire 20 qu'il a déjà fait son exit. Déjà la philosophie l'a mis à mal. Et ce qu'amène la psychanalyse, c'est que cet un, non seulement est pulvérisé, mais qu'il est un trou. Qu'il est un trou, qu'il est un manque. Et donc là, la certitude analytique, qu'on retrouve aussi bien dans la croyance d'un sujet que dans ses convictions, cette certitude qui nous intéresse, c'est la certitude qui repose justement sur une autre logique que sur l'un du dieu tribal qui nomme, mais sur le nom à trois.
Alors c'est ça, et je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est ce que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, hein, c'est qu'il ne faut pas confondre le rond du réel avec le réel du nœud.
Absolument.
Et que pour Lacan, le réel, c'est le nœud. Et quand je comprends ça, je comprends mieux, parce que sinon l'inconscient réel, moi ça ne me va pas. Si, parce que si on pense l'inconscient réel, c'est le rond du réel, non, Lacan le dit très clairement, non. Mais si on dit l'inconscient réel, c'est le nœud, alors là d'accord, moi ça me va. Et finalement, ce qu'on découvre, c'est que si le réel, c'est le 3, la psychanalyse doit nous apprendre à, et c'est pour ça qu'on prend ces petits bouts de ficelle, à nous rompre à cette logique du 3 qui ne nous est pas du tout naturelle. Hein, parce qu'on est dans une logique, nous, binaire. C'est un, deux,
d'où ça vient
de l'homme,
d'où la mise à plat.
D'où la mise à plat,
c'est ce qu'il dit.
Avec les risques d'errance et de malentendu.
Non, mais Lacan dit que parce qu'on ne représente pas le monde en trois dimensions, et donc il a mis à plat la topologie pour ça, pour que ça soit plus accessible. Enfin, il dit ça, on était plus loin.
Anita, tu voulais dire
C'est pour répondre à ta question de croyance trouvée. Il y aura Carlos après.
Jacques aussi. Jacques.
Non, moi je voulais faire deux petites remarques très incidentes. La première, c'était, je ne veux pas me rappeler que Breton et Dali, au moment avant leur rupture, ont théorisé la paranoïa critique.
Absolument.
Comme mode de création artistique. Et donc, il ne s'agit pas d'être paranoïaque ou pas, c'est utiliser la paranoïa et le délire paranoïaque comme outil, finalement, de création. Et le deuxième point, c'était juste une remarque méthodologique, c'est pour dire qu'on a tendance à faire, dès qu'on voit trois, on dit borroméen. Mais donc, il y a beaucoup d'autres trois que le borroméen. Et donc, quand on parle du moyen comme important, l'Olympique, avec son moyen, qui nous, les deux autres. Donc il faut savoir de quoi on parle quand on dit neuroroméen pour toutes ces choses. Voilà. Et je rappelle aussi que Lacan utilise aussi IRS, puisque vous avez dit IRS, comme imagination du réel du symbolique, imaginarisation du réel du symbolique. Il définit comme ça les mathématiques dans le début de réalisation du symbolique de l'imaginaire, c'est la religion. Donc il utilise ces modalités. Cette modalité pour donner des sens différents en fonction de ce qu'il veut dire, mais c'est pas le nœud lui-même qui porte cette interprétation, c'est Lacan qui en rajoute par rapport à la structure.
Tout à fait d'accord. La seule chose différente, c'est que si j'avais amené des nœuds olympiques, vous aurez montré que le moyen, on peut pas le bouger. C'est fixé. On ne peut pas le faire tourner.
Ça dépend.
Alors,
on le fera pas, mais non.
Ben, d'accord. Mais a priori, ça reste. Parce que ça, c'est quand même absolument magique.
Oui, oui.
Et on ne fait pas du tout ça avec des deux olympes.
Sans substituer.
Avec
ce qui est fondamental dans la borroméanité, c'est bien la violabilité, comme dit Lacan, du trou. Par rapport au
borroméanité. Il est 23. Bon, Carlos, après on finit.
Je voulais revenir, si vous permettez, sur la même question d'une autre manière. Parce que j'ai beaucoup aimé cet exposé, cet effort de, justement de montrer les moyens, en fait, de lier les registres, mais pour moi, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne, en fait, dans cette articulation, en fait, des certitudes et réelles. Il y a deux aspects. D'un côté, il y a l'aspect, en fait, sur l'acte analytique. Pourquoi ? Parce que, en fait, en quelque sorte, Lacan, c'est forcé de dire que l'analyste lui-même, il est incertain. C'est-à-dire, la proposition de la part, c'est une manière de dire, est-ce qu'il y a de l'analyste ? Donc, en fait, il y a vraiment le principe d'incertitude de base de l'analyste. Quant à l'interprétation, quant à l'analyste lui-même, etc. Donc, disons, dire qu'il est analyste, qu'il fait une interprétation parce qu'il est certain, et, disons déjà, ça me paraît en contradiction. Par contre, l'acte analytique, c'est quelque chose dont on peut avoir dans l'après-coup. Donc, ce n'est pas anticipé, c'est dans l'après-coup, c'est par ses effets, disons, qu'on peut constater de l'acte analytique. Donc, et voilà, donc, et du coup, c'est une manière de te renvoyer à cette question sur la certitude de l'acte. Et de l'autre côté, certitude de réel, parce que autant il y a la question, disons, du réel par rapport au bord, du réel, disons, par rapport à la question de, justement, de quelque chose qui échappe. Mais une certitude comme réelle impliquerait quand même la possibilité qu'on puisse saisir tout du réel. Le concept du réel, voilà, en tout cas c'est une question. Hein, disons jusqu'à quel point, c'est ça la question, jusqu'à quel point on peut assimiler certitude à réel. C'est ça la question.
Simplement, juste un mot conclusif,
l'impossible.
Il y a dans Lacan, très souvent, hein, et Marc y a fait référence dans son texte, très souvent, Lacan, quand il y a trois, il s'impose des permutations. Et il le dit très souvent, c'est comme ça qu'on peut aborder quelque chose du réel, c'est s'imposer des permutations de petites lettres. À ce moment-là, il y a des réponses qui arrivent. Et si tu veux, ma réponse de dire que finalement, après avoir articulé ça, je peux dire la certitude, c'est le réel comme moyen pour faire le nœud, elle m'est venue simplement par déduction. Et après, voilà, après je me dis, ben oui, après tout, c'est sûr qu'il y a quelque chose de ce côté-là, même avec toutes les réserves que tu donnes. Hein. La certitude de l'acte, ça veut dire que l'analyste n'intervient pas comme un sujet. Un sujet qui croit qu'il peut dire quelque chose, hein, ni même d'une conviction. C'est que c'est le réel qui répond, et lui, il est l'agent de ça. Il se fait l'agent de ça.
Oui, je voulais pas dire ce qu'on disait avant, c'est une autre certitude que la certitude subjective.
Bien sûr.
Ce n'est pas non plus la certitude logiquement démontrée.
Non, bien sûr. C'est pour ça qu'elle est réelle.
Oui,
c'est pour ça.
Moi, ça me va. Oui, je voulais pas laisser la question d'Armando en suspens, puisqu'il m'avait posé deux questions au début. Et la deuxième, c'était qu'est-ce que c'est donc que cette croyance trouée ? Donc, je voulais répondre, parce que sinon, c'est quand même dommage.
Oui, on reste.
Alors, donc, cette croyance qui est dans le 2, qui fait 1, hein, puisque la croyance du névrosé, c'est d'y croire à la femme qu'elle va dire quelque chose. Qu'est-ce que ça devient dans l'analyse ? Ça devient, dit Lacan, que ça, qu'il y a une coupure dans le 2, puisque il y a une séparation, puisque ça devient 2. Alors, comment on peut l'entendre que le 2 du 1, finalement, quand il devient D'E, c'est E, ce n'est plus moi, mais c'est E. C'est pas moi qui suis dans le champ du regard à voir la fenêtre de mon fantasme, mais c'est eux en dehors de la fenêtre, eux dans la traversée du miroir, en fait. Hein, je l'entendrai comme ça. Et cette fameuse formulation qui est quand même difficile à comprendre quand il dit que le si emblé de discord, hein, le si semblé, on voit que le semblable revient, mais ce n'est pas le semblable du psychotique qui est dans le deux pour être mal dans le deux à tuer le deuxième. C'est le semblable qui fait que il n'y a plus de sens et que on a touché la limite où il n'y a plus de semblant. Et ça devient le dé-sens. Et c'est ça qui fait le dé apostrophe e. Et le fait de s'y sembler, là on n'y croit plus, mais on s'y semble dans le sens où on capte quelque chose qui n'est pas dans le sens, qui est comme la proie volée.
Voilà. Bon, merci beaucoup, Anita.